Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une question qui est dans l'air depuis la rentrée dernière et plus le temps nous rapproche de la présidentielle de 2022, plus elle se pose. Cette question, elle se pose avec d'autant plus d'acuité que la situation politique est rendue particulièrement incertaine par la crise sanitaire. On peut y voir une difficulté supplémentaire, mais on parierait volontiers qu'ils sont nombreux à y voir une possible opportunité. À gauche de l'échiquier politique, les différents projets, et disons-le, les différentes ambitions sont toujours là, mais il y a eu récemment quelques offres de dialogue, des signes d'ouverture, car cette question, c'est celle traditionnelle de l'union de la gauche, est-elle impossible ? Et c'est notre question du jour.
RFI.
Et en attendant l'allocution du président français Emmanuel Macron, on va en parler avec trois invités qui sont en direct avec nous par téléphone aujourd'hui. Mathieu Fula, bonjour. Vous êtes chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po et auteur du livre « Les socialistes français et l'économie, 1944-1981, une histoire économique du politique », c'est aux presses de Sciences Po, et vous avez co-dirigé « Les socialistes européens et l'État au XXe et XXIe siècle » aux éditions Palgrave. Et également Sébastien Repère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, chercheur associé à Sciences Po et chercheur post-doc à l'université de Valenciennes et auteur d'une thèse portant sur l'écologie politique en France. Et enfin Fabien Escalona, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au laboratoire Pacte de Sciences Po Grenoble et vous êtes également journaliste à Mediapart. Mathieu Fula, je parlais à l'instant de questions traditionnelles, mais on pourrait même dire qu'elle est éternelle, en tout cas depuis le début du XXe siècle. Au-delà des personnalités, la gauche française a-t-elle déjà été aussi atomisée entre différents mouvements au poids relativement proche ?
C'est une très bonne question, pas simple à répondre effectivement. Quand on essaie de faire des analogies historiques, la seule situation qui rappelle un peu la situation actuelle où la gauche était extrêmement fragmentée et miettée, c'est 1958, avec une gauche qui est très divisée sur la guerre d'Algérie, avec le général de Gaulle qui institue un régime, la Ve République, qui provoque une levée de boucliers à gauche et... avec des partis qui sont divisés, certains comme la SFIO qui vont plutôt avoir tendance à accepter, d'autres qui vont refuser. Donc là, on entre dans un moment de scission et de micro-partis qui rappelle un peu la situation actuelle à la différence importante que le système institutionnel de l'époque n'est pas celui d'aujourd'hui.
Enfin, Sébastien Repère, la grande nouveauté dans la situation actuelle, c'est que les écologistes, avec leurs succès électoraux, municipaux et européens, ils sont peut-être passés du statut de force d'appoint traditionnel à celui, enfin en tout cas c'est ce qu'ils espèrent, et vous allez nous le confirmer ou pas, celui de force motrice.
Oui, exactement. C'est la grande différence, je dirais, avec les années 90 et 1997 et la logique de gauche plurielle. Dans cette logique de gauche plurielle, c'était vraiment le PS qui était le parti pivot et qui avait permis à cette gauche de se restructurer. Aujourd'hui, le PS est complètement éclaté, a perdu énormément de voix. Et si on regarde les dernières européennes, notamment, c'est la liste écologiste qui est arrivée en tête à gauche, du moins. Il y a eu selon certains, cette vague verte des municipales, vague verte qui a relativisé fortement, mais en tout cas qui a mis un certain nombre de maires écologistes au pouvoir. Et donc, il y a peut-être cette tentation hégémonique écologiste à gauche qui est une nouveauté.
Fabien Escalona, la question qui se pose, est-ce que c'est celle du leadership ? Qui va entraîner les autres ? Et je ne parle pas forcément uniquement de leadership individuel ou personnel, mais peut-être de leadership politique. Cette question, elle est encore en discussion, elle n'est pas tranchée.
Non, exactement. Je vais aller dans le même sens que les deux intervenants précédents. Et vous posez la question de la bonne manière. C'est qu'il y a la question des organisations et la question des personnalités. Sur la question des organisations, effectivement, aujourd'hui, on a une sorte d'équilibre des impuissances. C'est-à-dire que toutes les forces politiques de gauche constituées ont des ressources à faire valoir qui leur permettent de pas lâcher le morceau, si vous voulez, en termes de vouloir être représentées, de vouloir avoir un rôle, en tout cas, dans cette possible union. Mais en même temps, personne n'a les moyens de tuer le match. Personne n'a les moyens d'accomplir sa tentation hégémonique. Donc on est vraiment là dans un équilibre compliqué et c'est redoublé par le fait qu'il y a un problème, on y reviendra peut-être aussi, au niveau du personnel politique. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais si vous voulez, tout tourne autour quand même de la conquête du trophée présidentiel. Et le fait est que, encore une fois, on a des individualités qui peuvent avoir des qualités, des défauts respectifs, mais on n'a pas, pour l'instant en tout cas, on n'a pas de candidat crédible suffisamment, en tout cas, qui emporte tout. C'est-à-dire la question de l'union de la gauche, de l'union des organisations serait beaucoup moins dans l'air du temps si on avait un candidat qui écrasait, on va dire, la concurrence. Vous pouvez en avoir 3-4 derrière à 0,5%, la question de l'union ne se pose plus. Donc on a vraiment cette difficulté, effectivement, de une gauche à la fois fragmentée avec personne pour prendre un leadership naturel ou d'évidence. Et du coup, il faut mettre en place des dispositifs pour construire ce leadership ou une union plus complexe, plus égalitaire. Et ça, c'est plus compliqué.
Mathieu Fula, avant la présidentielle, il y a les régionales que j'ai allègrement enjambées, mais en principe, elles sont en juin, sauf si elles sont reportées en raison de la situation sanitaire. Et là, il y a eu récemment des signes encourageants pour la gauche, toutes les tendances qui se rangent derrière l'écologiste Karima Delli dans les Hauts-de-France. Est-ce que quelque part, il y a la peur, avec des sondages dont on a un peu parlé, de ne pas exister dans une région où la gauche est traditionnellement forte et où de fait, elle n'est pas vraiment représentée au Conseil régional actuellement ?
Ah oui, tout à fait, je suis d'accord. Il y a vraiment, je pense à cette union au niveau local, elle est intéressante parce qu'elle a vraiment été provoquée par la force du traumatisme de 2015 avec une région, comme vous l'avez dit, historiquement ancrée à gauche, un désistement républicain pour faire barrage à l'extrême droite, mais de fait, la gauche n'est plus représentée. Et ça peut faire penser à des choses, on fait front contre l'extrême droite comme autrefois on faisait front contre le fascisme. Ça pousse les organisations à modifier leur tactique. En 1934, c'est la prise de conscience du danger fasciste qui a poussé le Parti communiste à impulser une dynamique de rassemblement populaire avec les autres forces de gauche. Mais encore au début des années 30, le principal ennemi du PC, c'était la SFIO. Ce qui est intéressant aussi dans cet exemple, c'est l'union qui n'est pas une union de cœur. Le sénateur du Nord, là, Patrick Kanner, a écrit une lettre intéressante aux militants où il dit l'union peut avoir un prix. Ça, vraiment, pour un historien du socialisme, ça fait penser aux années 70 où aujourd'hui on l'a mythifié un peu. Mais à l'époque, on parlait de l'union comme un combat, on parlait au côté PS de l'union froide avec le Parti communiste et chacun voyait dans l'union un moyen de siphonner les électeurs de l'autre. Côté communiste, on voulait plumer la volaille socialiste et côté François Mitterrand qui dirigeait le PS à l'époque, on voulait prendre 3 millions de voix sur les 5 millions d'électeurs du PC.
Sébastien Repère, est-ce que c'est possible ce qui se passe dans les Hauts-de-France ? Est-ce que c'est possible partout ? Parce qu'on sait que les écologistes ne sont pas sur des fonctionnements ou des stratégies définies au plan national, mais au plan local. Est-ce que ça peut se reproduire ailleurs ? Est-ce que l'idée, elle existe dans d'autres régions ?
Alors, l'idée existe dans la région Grand Est, notamment à l'initiative d'Aurélie Filippetti qui essaye d'initier la même dynamique. L'autre question qui se pose, c'est est-ce que c'est duplicable au niveau national ? Là, la réponse est quand même plus problématique. Il y a deux jours, Yannick Jadot a lancé un appel à plusieurs personnalités de la gauche, Anne Hidalgo, Olivier Faure, Christiane Taubira, il y avait Jean-Luc Mélenchon également, mais il y a quand même un certain nombre d'idées sur lesquelles on peut passer pour une élection régionale, par exemple le nucléaire, les questions de laïcité, par exemple. Mais au niveau national, forcément, ces questions vont revenir et elles vont recréer de la division. Et puis, il y a autre chose qui est intéressant aussi. Il y a deux jours, lorsque Yannick Jadot a lancé cet appel, il a cité, parmi les personnalités sur lesquelles il compte, il a cité Julien Bayou, qui est de son propre parti, qui est chez ELV. Ce qui montre bien que même à l'intérieur de la famille écologiste, il n'y a pas forcément d'accord sur tout. Et quand Jadot dit qu'il faut se mettre autour de la table, ça inclut les membres de son parti avec qui la discussion est peut-être pas totalement aboutie sur un certain nombre de thématiques.
Oui, parce qu'on va le rappeler, il y a une primaire prévue au sein d'Europe Écologie Les Verts au mois de septembre.
Oui. Alors, qui pourrait se transformer en une désignation d'un candidat unique si jamais le processus allait plus loin. Hein. D'ailleurs, Olivier Faure a répondu présent à l'appel et pour l'instant, aucun principe n'est vraiment défini, mais ça pourrait aller plus loin et cette primaire pourrait se transformer en primaire, je sais pas, de la gauche ou de la gauche unie, à voir comment elle pourrait être définie.
Fabien Escalona, comment cette union dans les Hauts-de-France est perçue par les dirigeants des partis? Est-ce que, j'ose cette hypothèse, est-ce qu'ils ne voient pas plutôt dans les régionales une occasion de se compter justement pour peser ensuite dans d'éventuelles discussions en vue de 2022? Est-ce qu'on va compter nos forces, tout simplement?
Bah, oui, il y a un peu cette idée-là. En plus de ça, bon, vous avez un mode de scrutin qui, certes, est à deux tours, qui pousse quand même à un rassemblement pour avoir une dynamique. Mais après, vous avez quand même c'est un scrutin mixte, hein, vous avez une part de proportionnel. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une façon de montrer ses muscles, au fond, avant la grande explication nationale. Mais ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que quand même, on a ces dernières années, depuis l'élection de Macron, hein, qui a bouleversé les équilibres du système partisan. Vous avez un peu quand même une déconnexion entre les scènes locales où les deux grands piliers de la Ve République, donc les héritiers du gaulliste avec les Républicains et le Parti Socialiste, ont encore des positions fortes malgré tout. C'est au niveau national, c'est beaucoup moins le cas. Donc oui, ils peuvent aussi avoir des prétentions au niveau local qu'il est peut-être plus compliqué de faire valoir au niveau national. Donc il n'y a pas une transmutation de l'un à l'autre au-delà des questions de fond qu'a évoqué Sébastien Repère. Après, la question des Hauts-de-France, elle pose la question du spectre de la disparition. Je pense que plus on approchera de 2022, plus les électeurs de gauche diront « Mais attendez, vous déconnez à plein tube. » Mais en fait, vous risquez de faire disparaître un camp alors qu'il y a des électeurs pour ce camp. Et la référence à 34 est intéressante, puisque quand on prend les grands exemples où la gauche a été plutôt unie, que ce soit le bloc des gauches au début du 20e, que ce soit le Front populaire, les années 70, en fait, c'est vrai qu'on a souvent mythifié, mais qu'à l'époque, il y avait évidemment beaucoup d'acrimonie, ça a été long, compliqué, les gens jetaient des noms d'oiseaux. Donc, est-ce que l'union est vraiment encore impossible à un an? Bon, je pense qu'il n'y a aucun de nous trois qui mettrait son billet sur le fait que l'union se fera à coup sûr, mais on peut difficilement dire que c'est complètement impossible. Je pense qu'il y a, il va, la pression va vraiment monter.
Mathieu Fula, autre signe, il est venu, on en parlait en début de semaine, de Yannick Jadot, l'écologiste qui donc ne cache pas ses ambitions personnelles. Il appelle au dialogue et de manière surprenante ou pas, vous allez nous le dire, il n'a pas été si mal reçu. Est-ce que c'est un peu traditionnel? C'est une sortie de pure forme. Historiquement, il y a toujours ces appels à rassemblez-vous, mais plutôt derrière moi.
Alors oui, en temps de crise, effectivement, Fabien Scalona rappelait 34 et d'autres épisodes de la gauche, oui, dans les moments de crise ou au contraire d'élan, 34, 62, 72, oui, il y a des appels au rassemblement de la gauche avec ce mot d'ordre très très classique, le programme d'abord. Bon, on sait qu'en fait, comme on l'a tous dit là, ça dissimule des ambitions personnelles, mais après, il y a beaucoup de différences parce que l'appel, il vient de Yannick Jadot, justement, et Sébastien Repère le disait tout à l'heure, mais ce parti, il a longtemps refusé d'être marqué à gauche. Et la deuxième chose aussi, pour rebondir sur ce que disait Fabien Scalona, c'est que là, on ne sent pas la poussée sociale qu'on peut voir dans les grands moments d'union de la gauche, le Front populaire ou les années 70 qui sont les meilleurs exemples. Souvent, les partis politiques, le politique répond à une mobilisation du peuple de gauche, des syndicats, des intellectuels, des associations, des coopératives. Il y a une espèce de réponse en fait à un appel et ça initie une dynamique politique. Là aujourd'hui, cette forte mobilisation sociale sur le terrain, des relais de partis politiques qui sont quand même en grande difficulté pour la plupart, autour d'un texte, autour de mots d'ordre, elle est plus difficile à trouver.
Sébastien Repère, pour qu'on s'y retrouve, les écologistes sont un point pivot aussi bien pour la gauche de la gauche que pour les socialistes. Ils veulent bien tous ces gens-là leur parler aux écologistes, alors que eh bien la gauche de la gauche, la France insoumise et les socialistes, ils ont un peu plus de mal à se parler directement. Les écologistes, ils font le pont entre les deux rives.
Mais c'est le point central, justement. Alors que précédemment, au moment de la gauche plurielle, ça avait été le PS qui faisait le point central, le point pivot, pardon. Désormais, ça pourrait être les écologistes qui, d'ailleurs, sans doute regardent aussi au niveau européen ce qui se passe. Par exemple, les récentes élections au Bade-Württemberg qui ont énormément profité aux écologistes, hein, qui étaient alliés à la CDU. C'est un cas particulier pour l'Allemagne. Et ils ont tiré parti de cette alliance en récupérant énormément de voix. Donc, il n'est pas exclu que ce soit aussi, consciemment ou inconsciemment, dans la stratégie de ELV, de chercher à développer ce type d'alliance pour peut-être en profiter sur le moyen ou sur le long terme. Voilà comment on peut cerner les choses, hein, pour essayer de situer les Verts aujourd'hui dans ces tentatives de rapprochement. Ils pourraient faire le lien en fait entre les différentes composantes de la gauche qui ont effectivement du mal à se parler.
Fabien Escalona, on parlait des divergences idéologiques. Les récentes polémiques sur les réunions non mixtes dans le courant de la campagne pour les régionales en Île-de-France, est-ce que ces polémiques montrent que les divergences sont peut-être trop fortes sur certains points pour parvenir à s'unir?
Après, là, je pense que mes camarades historiens pourront abonder aussi sur cette question, notamment Mathieu Fulat qui a travaillé sur les années 70. Je pense que dès qu'on se plonge dans le passé, on voit quand même qu'il y avait des antagonismes très forts aussi. Enfin, pour prendre l'exemple le plus connu des années 70, bon, l'alliance PS-PCF, on parle quand même d'un parti, le PCF, bon, qui était peut-être plus le bras armé de Moscou s'il l'a jamais été, mais enfin, quand même qui expliquait que dans l'Union soviétique, le bilan était globalement positif. Enfin, bon, l'Union battait déjà de l'aile, mais vous voyez un peu l'ambiance, quoi. On n'en est quand même pas là. Donc, j'ai un peu du mal à considérer que plus qu'avant, il y aurait des questions vraiment insurmontables. Et sur ces questions-là, je pense que ça montre des vraies divergences, cette histoire des réunions non mixtes, de rapport au pluralisme, de rapport à comment on comprend la République. J'ai fait récemment un travail là-dessus. Il y a des compréhensions différentes de la République. Et c'est vrai que le PS est sur une conception peut-être un peu classique, un peu raide, quoi, sur une position de l'universalisme qui n'est pas trop questionnée, qui mériterait peut-être de l'être un peu. Mais honnêtement, la campagne va présidentielle va pas se faire sur les réunions non mixtes. C'est-à-dire que si jamais les appareils prennent prétexte de ces questions-là pour ne pas s'entendre, pour le coup, oui, ce sera vraiment un prétexte. Après, il y a des choses plus sérieuses sur la question de l'intégration européenne. Mais là aussi, les positions se sont un peu polissées de part et d'autre, et notamment de ceux qui allaient le plus dans un sens de désobéissance unilatérale aux règles de l'Union européenne. Donc, moi, je dirais que des divergences, on peut en parler pendant très longtemps, elles existent, hein, mais qu'elles soient insurmontables, surtout si on fait un programme d'urgence à court terme, à 2 à 5 ans. Non, je ne crois pas qu'elles soient insurmontables en soi.
Mathieu Fulat, justement, si on remonte aux années 70, notamment, les anathèmes entre différentes tendances de gauche, ça a toujours existé et ça n'a pas empêché forcément de se parler. C'est même une particularité de l'exercice.
Non, je souscris tout à fait à ce qui a été dit juste avant par Fabien Scalona, mais ce type de compromis sur les programmes, il est obligatoire si l'union devait se faire. Les incendies, c'est vraiment le meilleur exemple, mais on a deux partis qui ont des cultures politiques extrêmement opposées. Et pourtant, il y a une vraie volonté d'union parce que le gaullisme est au pouvoir depuis 23 ans, donc il y a une véritable envie d'arriver au pouvoir. Et quand le programme commun de gouvernement est conclu en 72, c'est une véritable tractation. François Mitterrand cède sur l'économie, il accepte des nationalisations industrielles en nombre important, beaucoup plus qu'il ne l'aurait souhaité, et la direction du Parti communiste, en échange, accepte de respecter les règles de la démocratie libérale, de ne pas remettre en cause l'appartenance de la France à la construction européenne et à l'OTAN. Et ça, c'est pas des petites concessions, mais c'était des concessions nécessaires pour que l'Union se fasse. Aujourd'hui, il y a un petit problème supplémentaire, c'est les institutions et la personnalisation de la vie politique. Tout est centré autour de la présidentielle et du candidat qui va incarner l'Union de la gauche. Donc ça rend les compromis peut-être un peu plus compliqués. Juste pour prendre notre exemple, mais qui est intéressant, en 65, le parti qui domine outrageusement la gauche, c'est le Parti communiste. Et pourtant, le Parti communiste accepte de passer son tour pour l'élection présidentielle. Parce qu'il est très hostile au régime et il soutient la candidature d'un outsider, François Mitterrand, qui n'est même pas membre du Parti socialiste, il est membre d'un petit club à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus illusoire. savoir que la force qui se perçoit comme dominante à gauche ne présente pas un candidat à l'élection présidentielle.
Non, en quelques mots, parce qu'on va devoir conclure, l'union, dans l'état actuel des choses, même si ça paraît difficile, elle est toujours possible.
Moi, ça me paraît compliqué pour cette raison qui est la personnalisation. Je pense qu'il y a une concurrence de leadership. Alors, on dit toujours programme d'abord, mais quand il va falloir choisir le candidat unique, ça va poser de sérieux problèmes.
Sébastien Repère, l'union, elle vous paraît possible ?
Elle est possible, mais effectivement, il faudrait peut-être une personnalité qui permette d'incarner la synthèse à la Mitterrand dans les années 70 ou 80. Et en l'état actuel des choses, c'est quand même peu probable, d'autant plus qu'il y a quand même Jean-Luc Mélenchon aussi qui s'est déjà déclaré candidat et qui a quand même peu de chances d'incarner cette synthèse, me semble-t-il.
Fabien Escalona, vous avez déjà un peu répondu, mais je vous pose la question à vous. Ça vous paraît possible cette union ?
En tout cas, oui, possible, oui, probable, un peu moins. Je dirais comme mes camarades. Et effectivement, le piège de la Ve République se referme un peu sur la gauche aujourd'hui. Et bon, si ça ne se dénoue pas cette fois, il faudra peut-être patienter 5 ans. Mais ça va être long pour les électeurs de gauche.
Merci Fabien Escalona, merci à nos autres interlocuteurs, Mathieu Fula et Sébastien Repère, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Laurent Philippot. On se retrouve demain, même heure, même endroit, dans quelques instants, édition spéciale sur RFI autour de l'allocution d'Emmanuel Macron à propos de la crise sanitaire.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale. Édition spéciale sur RFI. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de RFI. 8 minutes avant l'allocution d'Emmanuel Macron dans le cadre de la crise sanitaire, une allocution particulièrement attendue comme les précédentes, alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente singulièrement depuis quelques jours partout dans le pays et en particulier dans les 19 départements dans lesquels s'applique ce que l'exécutif appelle des mesures de freinage renforcées. On ne parle pas de confinement. Le président de la République a déjà laissé entendre qu'il pourrait annoncer des mesures complémentaires. Hein. C'est les éléments de langage qui sont depuis le début de la semaine qui nous sont fournis. On va écouter ça. Pour l'instant, avec nos intervenants, on va faire le point. Lucie Bouteloup du Service France est avec nous. Bonsoir Lucie.
Bonsoir Guillaume.
La piste de la fermeture des écoles semble être l'option privilégiée par l'exécutif. Qu'est-ce qui peut motiver cette décision ?
Eh bien, c'est le taux d'incidence chez les jeunes, c'est-à-dire le nombre de cas détectés pour 100 000 habitants. Pour mémoire, il est jugé critique au-delà de 250 et chez les 10-19 ans, il est de 500 et il ne cesse d'augmenter. Et puis, il faut bien le dire, depuis quelques semaines, les classes ferment les unes après les autres, surtout depuis l'application du nouveau protocole sanitaire qui veut qu'au premier cas avéré, eh bien, la classe entière se confine. Enfin, garder les collèges et les lycées ouverts, c'est aussi prendre le risque de contaminer les parents et donc de propager encore plus le virus. La preuve, selon une étude de l'Institut Pasteur, menée d'octobre à fin janvier, avoir un enfant au collège ou au lycée représente un surrisque d'infection de 30% pour les adultes. Côté écolier, c'est pas mieux. Là encore, le nombre de contaminations de parents augmente.
Et depuis plusieurs semaines, on le sait, la situation se dégrade sur l'ensemble du territoire. Le virus semble gagner à nouveau du terrain. Où en est-on précisément ?
Aujourd'hui, on estime à environ 5 000 le nombre de malades du Covid dans les services de réanimation. Et ce chiffre devrait continuer d'augmenter pendant les deux prochaines semaines puisqu'il y a toujours un décalage entre les contaminations et les hospitalisations. Et puis, autre marqueur préoccupant, le taux d'incidence, encore une fois. Aujourd'hui, il dépasse largement le seuil d'alerte maximal parce que dans la majorité des départements français et en Île-de-France, par exemple, il est d'environ 640. Le virus gagne donc chaque jour un peu plus de terrain, Guillaume.
Merci Lucie Bouteloup. On va illustrer l'inquiétude et les questions qui se posent avant l'annonce des décisions du président en allant à Marseille. On rejoint Stéphane Burgat. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Dans le sud de la France, qui n'est pas encore soumis aux mesures dites de freinage renforcé, est-ce qu'on craint une extension de ces mesures et peut-être une fermeture des écoles ?
Oui, alors d'autant plus sur cette question des écoles qu'à Marseille, il y a de plus en plus de fermetures en raison des cas de Covid et une situation d'ailleurs qui se dégrade là-dessus sensiblement depuis une semaine maintenant. Il y aurait une vingtaine d'écoles concernées selon un comptage qui a été fait tout récemment par une association de parents d'élèves. Et dans ce contexte, justement, les parents sont vraiment dans la crainte puisque se profile à nouveau le spectre du premier confinement. Ils s'en rappellent de cette coupure pour leur enfant avec le monde de l'enseignement, avec l'école. Et justement, j'ai rencontré une maman tout à l'heure qui est concernée par la fermeture de l'école de sa fille depuis lundi et ça ravive de mauvais souvenirs à son enfant qui est déjà très angoissé. Elle passe de mauvaises nuits, elle fait des crises d'angoisse et s'inquiète pour son avenir, même si elle n'a que 7 ans, car elle voit se reproduire eh bien, le même scénario qu'il y a un an. Maintenant, de sources médicales, syndicales ou aussi du côté des associations de parents d'élèves, il y a cette position qui est à peu près commune, qui est de dire, ok, dans l'idée, on est vraiment contre le principe de fermeture des écoles, mais avec la situation actuelle et face à cette dégradation chaque jour, eh bien, il faut vraiment faire quelque chose. Tant pis, les parents sont perdus, les enseignants sont épuisés avec ces fermetures à répétition et dans l'urgence. Et pour toutes ces raisons, eh bien, ils ne peuvent plus supporter le statu quo.
Merci Stéphane Burgat. Et ben justement, Laurence Théo a rencontré Sonia. Alors, ce n'était pas à Marseille, mais en région parisienne. Sonia, c'est la mère d'un écolier et de deux collégiens. Elle envisage une éventuelle fermeture des établissements scolaires et ça lui fait un peu peur. Écoutez-la.
Je suis assez inquiète si les écoles ferment, de redevoir faire l'école à la maison, notamment pour mes grands qui sont au collège, où c'est pas forcément facile d'être disponible en travaillant pour les enfants à la maison. Mais je pense que c'est une bonne chose que ça ferme aussi, parce que le virus circule quand même grandement dans les écoles et par les enfants. Et effectivement, c'est une inquiétude d'avoir trois enfants à la maison à qui il faut faire classe en plus de son travail.
Est-ce que vous sentez suffisamment de ressources pour de nouveau faire l'école à la maison?
Alors, ressources, non, mais obligations, oui, puisque je ne peux pas laisser mes enfants sans cours, notamment dans les grandes classes, pendant plusieurs semaines. Et j'espère qu'ils seront compréhensifs aussi sur le niveau des élèves, parce que ça fait quand même 2 ans qu'ils sont impactés dans leur scolarité. On n'est pas des profs, j'ai pas fait ce métier-là. Donc, c'est pas évident quoi, de devenir professeur, soit des écoles, soit de collèges, dans toutes les matières. Voilà.
Sonia, mère de 3 enfants, qui répondait à Laurence Théo. Valérie Gasse, chef du service politique de RFI, est avec nous ce soir. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Guillaume.
Dans 3 minutes maintenant, le président va s'exprimer. Quel est l'enjeu de cette allocution pour le chef de l'État?
Il y en a plusieurs, Guillaume. Le premier, c'est de montrer qu'il est aux commandes et qu'il prend des décisions sanitaires. Certes difficiles, mais indispensables. Ces décisions, on va les connaître dans quelques instants. On en a parlé, ce sont les écoles qui sont sur la sellette. C'est le levier principal sur lequel le président peut agir. La difficulté pour Emmanuel Macron, c'est d'annoncer ces nouvelles restrictions sans reconnaître que ses choix antérieurs n'étaient pas les bons ou qu'il a trop tardé à prendre des mesures fortes, comme le réclamaient notamment les médecins depuis des semaines. Emmanuel Macron n'a cessé de dire ces dernières semaines que le confinement c'était l'ultime solution, que la fermeture des écoles devait être évitée à tout prix, car trop néfaste pour les enfants. Il va donc vraisemblablement devoir expliquer pourquoi c'est maintenant nécessaire, tout en restant ou en essayant de rester cohérent avec ses décisions et sa stratégie. Une stratégie qui mise beaucoup, pour ne pas dire tout, sur les avancées de la vaccination. Emmanuel Macron doit aussi rectifier le tir après la cacophonie d'il y a 2 semaines, quand Jean Castex avait annoncé les mesures qui visaient, vous le rappeliez, à freiner le virus sans enfermer et qui n'ont vraiment pas été comprises, sauf pour une chose, la volonté du président de ne pas appeler cela un confinement. Et ce qui a embrouillé les esprits, il y a donc un enjeu de communication, car c'est souvent par la communication que l'exécutif a pêché jusqu'ici. D'ailleurs, il y a une réunion ce soir à Matignon avec les ministres avant l'allocution du président. Cette réunion, elle visait à expliquer au gouvernement les annonces préparées pour éviter ce qui s'est déjà produit plusieurs fois, à savoir des couacs. Il est arrivé que les ministres apprennent en même temps que les Français les mesures décidées et ne sachent pas s'en emparer. L'objectif cette fois-ci, c'est qu'ils puissent aller dès demain porter la parole présidentielle en connaissance de cause. Encore une fois, Emmanuel Macron se trouve sur une corde raide. On a employé beaucoup cette expression. Il va devoir se livrer à un exercice assez difficile, assumer les mauvaises nouvelles et en même temps essayer de donner quand même des perspectives aux Français. C'est un peu sa marque de fabrique, mais c'est aussi souvent ce qu'on lui reproche. Un exercice comme celui-ci sur la crise sanitaire, une allocution, il n'en a pas fait depuis le 24 novembre. Et à ce moment-là, il avait plutôt annoncé des nouvelles encourageantes, la levée du confinement de l'époque et son remplacement par un couvre-feu avant les fêtes de Noël. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, vraisemblablement.
Oui, si on revenait sur les couacs que vous évoquiez, Valérie Gasse, il y a eu cette affaire de l'attestation liée aux nouvelles mesures de freinage renforcées. C'est un mot qui est associé à l'avant 2017, ça n'a pas trop plu à l'Élysée.
Ça n'a pas marché. Hein. L'histoire de l'attestation, ça a pourri un week-end hein, et ça a obligé Jean Castex notamment à essayer de trouver des slogans pour faire oublier tout cela.